Vous écoutez France Culture.
Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et quatrième temps ce jeudi d'une semaine que dans le cadre du partenariat avec la République des idées et le colloque qui se tient les 8, 9 et 10 mai à la Maison de la Culture de Grenoble, les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la rénovation de la démocratie. Après Jacques Rancière et la haine de la démocratie, Claude Mossé et Jean Bollack venus vous parler de la démocratie athénienne. Après Nicolas Vambremersch, autrement connu sous le nom de Versac, et Dominique Cardon venu causer de démocratie à l'ère d'Internet, et avant Pierre Rosanvallon et le grand Claude Lefort, que les nouveaux chemins recevront demain vendredi en direct de Grenoble, nous accueillons aujourd'hui le professeur Loïc Blondiot, qui a publié en 2008 au Seuil, dans la collection de la République des idées, un essai sur l'actualité de la démocratie participative, intitulé « Le nouvel esprit de la démocratie ». Alors c'est à Ségolène Royal, il faut bien le dire, que nous devons l'actualité nouvelle du terme de démocratie participative. Reste à savoir si c'est une idée neuve, on va en parler. Puisque la candidate socialiste en avait fait le credo de sa campagne avant d'en faire aujourd'hui le signe distinctif de l'atypisme de sa démarche à tout seigneur, tout honneur, c'est donc avec l'ex-candidate socialiste à la présidentielle que nous allons commencer cette émission.
Est-ce que vous comprenez pourquoi vous attirez à ce point la lumière, les regards depuis quelque temps ? D'où est venue cette cristallisation ?
Je veux penser que c'est grâce à ma liberté de parole et ma volonté de regarder la vie et la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Et donc, je crois avoir compris un certain nombre de choses par rapport à la soif des Français de participer aux décisions qui les concernent, ce que j'appelle la démocratie participative, d'avoir la certitude que les responsables politiques ont fait le bon diagnostic sur ce qu'ils vivent.
Voici les soldats de la révolte qui font la croisade pour que toute femme vote. On sait qu'un homme a des tas de qualités, mais on doit bien dire qu'en groupe il est très stupide.
Madame Box,
laissons donc la querelle d'hier, toutes dans l'union.
Bonjour Loïc Blondiot.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance dans le cadre de cette semaine sur la démocratie, la rénovation de la démocratie. On vient d'entendre, avant Winifred, dans Mary Poppins, Ségolène Royal, dire pourquoi, selon elle, elle a été investie par les militants socialistes. Elle invoque, à l'appui donc de ce mandat qu'elle a reçu de la part des militants socialistes, sa liberté de parole, sa volonté de regarder la vie comme elle est, et son invention de la démocratie participative. A-t-elle fait le bon diagnostic sur sa candidature ? Après tout, Ségolène Royal est aussi une créature des sondages. Elle a aussi été investie par les militants parce que les sondages la donnaient gagnante face aux candidats d'en face, en tout cas provisoirement. Est-ce que d'une façon plus générale, le premier acte de la démocratie participative n'est pas, Loïc Blondiot, la soumission à la tyrannie de l'opinion, c'est-à-dire au règne des sondages ?
Alors d'abord dire que la démocratie participative, l'idéal que cette thématique représente, les dispositifs qu'il incarne, ne se résument pas à Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'elle est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais c'est un mouvement international qui, depuis une quinzaine d'années, a réhabilité finalement cette idée qu'il fallait associer, faire participer les citoyens ordinaires à l'élaboration des processus de décision. Le phénomène Ségolène Royal, en France, l'épisode 2006-2007 repose, vous avez raison, sur deux phénomènes politiques. Le premier, c'est la personnalité de Ségolène Royal, sa capacité à se servir des sondages, qu'on pourrait renvoyer à cette notion un peu floue qu'est la démocratie d'opinion. Mais la démocratie participative, c'est autre chose. C'est un phénomène beaucoup plus structurel. Ce que dit Ségolène Royal...
C'est structurel, pardonnez-moi, beaucoup plus structurel ou beaucoup plus structuré ? Parce que la démocratie d'opinion, ce qu'on a appelé la démocratie d'opinion, en général, quand on parle de démocratie participative, on en fait un avatar de la démocratie d'opinion.
Ah, je pense que c'est rabaisser cette notion, c'est confondre des choses qui ne doivent pas être confondues, même si dans l'épisode royal et dans le phénomène royal, les deux choses sont confondues. On pourrait même dire que la démocratie participative, c'est une manière de construire l'opinion publique sur des données, sur une base très différente des sondages d'opinion. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage d'opinion ? C'est la juxtaposition d'opinions individuelles qui n'ont pas forcément eu l'occasion l'occasion de se côtoyer, de se rencontrer, de dialoguer, de délibérer. La démocratie participative implique un idéal de discussion, un idéal d'échange, un idéal de délibération, comme le disent les anglo-saxons, qui n'a rien à voir avec le sondage d'opinion. Je vais donner simplement un exemple. L'un des théoriciens de la démocratie délibérative, qui est un petit peu l'appellation anglo-saxonne de ce que l'on appelle démocratie participative, James Fishkin, a inventé un instrument qui s'appelle le sondage délibératif, dans lequel on prend un échantillon de citoyens, mais on les met en situation de débattre d'une question donnée, on les confronte à des experts, on les confronte à des élus, et à la fin, nous dit James Fishkin, on recueille quelque chose comme une opinion conforme aux principes de la démocratie, qui sont le principe de l'égalité, le principe du nombre, et le principe de la discussion et de l'argumentation.
Donc, principe de l'argumentation et principe de l'égalité ou de l'équivalence des opinions, en l'occurrence, hein, puisque c'est aussi cela. Si on rassemble les délibérations, au lieu de les juxtaposer, mais qu'on les fait jouer entre elles, ça veut dire qu'on fait dialoguer entre elles des personnes tout à fait différentes, aux opinions différentes. Quels moyens demeurent-ils dans ces conditions pour valoriser telle opinion aux dépens de telle autre, hein, c'est-à-dire valoriser, par exemple, celui qui sait de quoi il parle, aux dépens de celui qui ne vient dans un débat comme celui-là que pour raconter sa vie.
Alors, la démocratie participative, dans ses fondements, c'est l'application du programme originel de la démocratie. C'est l'idée que nous partageons tous une forme de sens commun, c'est-à-dire une capacité à juger politiquement des phénomènes. Et de ce point de vue, il y a derrière les dispositifs de démocratie participative la critique d'une professionnalisation de la démocratie, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait finalement des professionnels pour gérer ces questions et des experts pour gérer les problèmes les plus techniques. La démocratie participative permet de repolitiser tout cela d'un certain point de vue et surtout d'affirmer un idéal principiel d'égalité, c'est que chacun a la possibilité de se faire entendre sur ces questions.
L'égalité dont vous parlez, c'est l'égalité formelle ici, hein, c'est l'égalité de droit en somme.
Voilà, c'est l'égalité de droit mais que l'on fait fonctionner à d'autres moments qu'au moment simplement de l'élection. La démocratie représentative fait vivre ce principe d'égalité mais à un seul moment, au moment de l'élection. L'enjeu c'est de le faire vivre dans l'intervalle entre les élections. Mais la démocratie participative, ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a au fondement de la démocratie participative, une critique de la démocratie représentative et de ses limites. Mais il ne s'agit en aucun cas de substituer des procédures qui reposeraient sur cette discussion citoyenne, qui reposeraient sur cette consultation, de les substituer à la démocratie représentative. C'est le moins mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres. Et ça le reste.
Alors on va revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, hein, Loïc Blondiaux, c'est passionnant. Sur cette question des experts, sur la question de faire vivre la démocratie dans l'intervalle de l'élection, avant d'en revenir à ces points-là, vous avez évoqué le sens commun, il faut rappeler hein, que l'expression ici à laquelle vous faites référence, c'est une expression qu'on trouve dans la critique de la faculté de juger. Le sens commun, c'est ce qui permet à Kant d'établir la possibilité d'un consensus autour de la question de la beauté. Consensus qui va avec la possibilité d'une discussion. Et une des lectures de la critique de la faculté de juger est une lecture politique, c'est Hannah Arendt qui la propose, et elle tire les considérations de Kant sur le jugement esthétique du côté de la possibilité d'un dialogue, c'est-à-dire en somme d'un accord sur la possibilité d'être en désaccord parmi les hommes. Mais en deçà même de ce sens commun auquel vous faites référence, on pourrait parler d'Athènes, tout simplement. Est-ce que le modèle de la démocratie athénienne, on pense ici au siècle de Périclès, est-ce que le modèle de la démocratie athénienne est l'incarnation, l'idéal type, en somme, de la démocratie participative, ce qui ferait de la démocratie participative non pas un Graal, quelque chose à atteindre, mais plutôt quelque chose à retrouver?
Alors, la démocratie athénienne sert de figure de référence. Elle sert d'horizon d'un certain point de vue, avec évidemment la problématique de l'exclusion à Athènes, qui n'est absolument plus supportable dans nos démocraties contemporaines. C'est vrai que la démocratie...
Il faut rappeler que dans la démocratie athénienne, les métèques, voilà, les femmes, les esclaves n'avaient pas droit de cité.
Voilà. La démocratie participative, quelque part, c'est un pléonasme. La démocratie est forcément participative. Derrière l'idée de démocratie participative, il y a non seulement cette idée de discussion, de délibération, de dialogue entre citoyens égaux, mais il y a aussi l'idée que les démocraties ne vivent que grâce à la participation, à l'activité des citoyens. C'est cette dimension qu'Hannah Arendt mettait en évidence, c'est cette dimension qui est au fondement de ce que serait une vision non galvaudée, non publicitaire, non réduite à de la simple communication de la démocratie participative. Le vrai problème, c'est que cet idéal aujourd'hui, il est dilué dans des opérations de communication politique, dans des opérations opérations de marketing qui finalement n'ont rien à voir avec cette exigence de démocratie.
Mais comment ne pas réduire l'idéal de démocratie participative à ce que vous appelez, à cet effet de marketing finalement, sans du même coup lui accorder la puissance d'une décision? Tocqueville dit dans La démocratie en Amérique, pour justement faire vivre la démocratie dans l'intervalle entre les élections et dans l'intervalle entre les gouvernants et les administrés, Tocqueville, parlant du but des associations, dit « Le but des associations est de diriger les opinions et non de les contraindre, de conseiller la loi, non de la faire. » Est-ce que la démocratie participative dépasse cette vocation et prétend légiférer? Ou bien, si elle ne le fait pas, est-ce qu'elle n'est pas condamnée justement à rester un effet marketing?
Elle ne l'est pas condamnée dans la mesure où elle permet d'introduire un vrai débat public.
Mais est-ce qu'elle légifère? Est-ce qu'elle a vocation à légiférer?
Elle n'a pas vocation à légiférer.
C'est essentiel, ça.
Elle ne le fait que dans certaines procédures très particulières du type du budget participatif latino-américain, qui a beaucoup fait parler de lui.
C'est-à-dire, allez-y, pardonnez mon ignorance, expliquez-nous.
Au début des années 90, le Parti des travailleurs de Lula a mis en place dans un certain nombre de villes brésiliennes, et notamment à Porto Alegre, un dispositif qui permettait d'articuler la discussion entre les assemblées de quartier, la discussion à la base des citoyens avec l'affectation d'une partie du budget, non pas la totalité du budget, mais une partie du budget d'une municipalité qui fait en gros 6 millions d'habitants. Et ce dispositif a permis, entre autres, de diminuer le taux de corruption, de clientélisme qui prévalait dans cette ville et dans d'autres, mais a montré que les délibérations des citoyens à la base n'étaient pas totalement à côté de la plaque, n'étaient pas plus absurdes ou plus irrationnelles que celles des experts et des représentants. Mais je ne vais pas jusqu'à dire qu'il est possible, dans tous les cas et à travers tous les dispositifs, de substituer l'un à l'autre. La démocratie participative, elle produit une certaine forme de légitimité. Elle ne peut pas se substituer ni concurrencer la légitimité représentative pour une seule et simple raison. C'est parce que l'élection au suffrage universel, telle que nous la concevons, donne la possibilité à chacun d'intervenir a priori ou a posteriori dans le processus de décision. Si l'on renvoie à quelques assemblées, à quelques conseils, le soin de décider, on n'offre plus cette possibilité de consentir, d'accepter ou de refuser la décision.
Il reste quand même le bulletin de vote, Loïc Blondiaux. C'est quand même un argument massue, si j'ose dire, de la part du citoyen.
Bien sûr. L'idéal, c'est une forme d'articulation entre les deux. Je prends un exemple. La Colombie-Britannique, qui est une province, un État du Canada, a décidé de réformer son mode de scrutin en 2004. Elle a fait un pari. Elle a confié à une centaine de citoyens tirés au sort le fait de penser une réforme du mode de scrutin. Ils ont travaillé pendant 6 mois. Ils ont écouté des experts. Ils ont élaboré un projet. Projet que l'État s'était obligé à soumettre au référendum. Le référendum est presque passé. C'est-à-dire que ce projet a presque été avalisé par le référendum, c'est-à-dire par l'ensemble des électeurs. Mais pour moi, ce type de complémentarité entre la démocratie participative et la démocratie élective est absolument essentiel.
Alors justement, vous avez parlé de tirage au sort. C'est très important puisqu'on est là dans un des éléments justement de la démocratie participative qui laisse entendre d'ailleurs que les citoyens désignés par la démocratie participative doivent réussir, c'était le vœu pieux de Rousseau, à mettre de côté leur passion particulière, leur individualité particulière. Comme une œuvre d'art ne demande pas les préférences de l'artiste, de la même façon, en somme, les décisions publiques ne doivent pas demander à un citoyen d'être, trompé ou dupe de ses propres passions. De sorte qu'on en vient à tirer au sort les gens pour ne pas les désigner en fonction de leur cursus, de leur idiosyncrasie, de leur individualité, de leur parcours singulier. On les tire au sort. Alors je voudrais qu'on entende sur ce sujet, et de façon générale, plus générale, sur le sujet de la démocratie participative, Alain Finkielkraut, contre qui Jacques Rancière, qu'on recevait hier, a écrit son essai La haine de la démocratie. Rancière, dans son essai, faisait valoir justement les vertus du tirage au sort. Finkielkraut revient sur cette question du tirage au sort et de la démocratie participative, à laquelle qu'il accuse non seulement de tous les maux, mais en particulier d'un mot très, très singulier qui est de nous priver de toute possibilité d'admiration. Écoutez.
Si on n'en revient pas aujourd'hui au tirage au sort, je trouve symptomatique que l'idée ressurgisse comme horizon, comme idée régulatrice, et surtout que le vocabulaire de la proximité utilisé par certains Américains au début de la démocratie américaine prenne le pas sur une certaine idée de l'imminence du politique. Ressemblance, proximité, qui tient aussi à cette crise, à ce refus de la représentation, à cette société du contact, à cette société de la communication. Après tout, nous avons par exemple soit la nostalgie du général de Gaulle, soit la nostalgie de Pierre Mendès France, ou les deux nostalgies ensemble. Ou aucune des deux. Mais en tout cas, bref, cela étant, nous avons des héros politiques en tête, et aucun d'entre eux n'était un homme de proximité. Il y avait une proximité chez l'un et chez l'autre, parce que l'un et l'autre ont su utiliser les médias de masse. Mendès France avait des conversations radiophoniques. Reste que, il y avait en eux une certaine éminence. Et c'est comme si on ne savait plus quoi en faire aujourd'hui. Comme si, précisément, c'était comme Mona Chollet, quoi. C'est-à-dire, le citoyen, c'est celui qui s'estime nécessairement et toujours l'égal de l'homme politique, et qui pense que la politique ne requiert pas de qualité supérieure à la sienne. Au fond, ou alors, la question, je pourrais la poser de manière beaucoup plus vaste, y a-t-il place dans ce monde de l'information généralisée et de la communication totale pour un sentiment comme l'admiration ?
Loïc Blondiot, qu'est-ce que vous répondez à distance à Alain Finkielkraut, c'était dans Réplique, le 17 mars 2007. Que répondez-vous justement donc à cette question ? Y a-t-il place pour l'admiration dans ce monde de l'information ?
Alors, deux remarques sur le tirage au sort. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de réhabilitation du tirage au sort, et donc de retour à l'exemple athénien, c'est-à-dire ce droit pour n'importe qui, finalement, d'être entendu dans l'espace public, de voir sa parole prise en compte dans l'espace public. C'est une transgression très forte. C'est une transgression, finalement, des hiérarchies. Je suis d'accord avec Alain Finkielkraut, et je comprends que ça ne lui plaise pas. Une transgression des frontières entre celui qui sait, des frontières a priori, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Les exemples qui ont été faits d'utilisation du tirage au sort sous les formes de conférences de citoyens, de jurys de citoyens, Oresco référence, hein, souvenez-vous de la polémique ouverte par Ségolène Royal lorsqu'elle a proposé les jurys de citoyens, qui avaient amené un certain nombre d'auteurs à disqualifier a priori cette procédure au nom même de la nécessité de respecter des hiérarchies.
Mais qui n'était pas sans rappeler l'idée d'un tribunal populaire avec tout ce que ça implique, pour le coup, de non démocratique et de proprement dictatorial.
Personne n'a jamais envisagé de remplacer les élus par le tirage au sort. C'est une sorte de complément, c'est une sorte d'adjuvant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, et dans cette critique de la démocratie participative, si l'on prend seulement l'exemple de la dernière présidentielle, il y a un peu des choses contradictoires. Quelquefois, on nous dit, c'est une forme de marketing amélioré, c'est du populisme, c'est de la démagogie, c'est de la communication. Et de l'autre, on nous dit, c'est la démocratie qu'on met en péril. Ce sont les représentants qu'on cherche à lyncher et à brûler. Donc, bon, je relève simplement cette contradiction. Mais le deuxième point sur le tirage au sort qui me rend un peu plus pessimiste sur les possibilités d'usage du tirage au sort aujourd'hui en démocratie, c'est que le tirage au sort, contrairement à ce qui se passait à Athènes...
Vous êtes pessimiste, ça veut dire vous redoutez qu'on s'en serve ou vous pensez qu'on n'y arrivera pas ?
Non, je suis dubitatif sur la possibilité que l'on puisse en faire un instrument démocratique susceptible d'enrichir, parce que l'enjeu c'est ça, c'est de démocratiser nos démocraties représentatives, c'est de l'enrichir, ce n'est pas de s'en débarrasser. Je suis plus dubitatif puisque le tirage au sort aujourd'hui n'est plus performatif au plan politique, c'est-à-dire qu'il ne crée plus à lui seul de la légitimité. Il sert de soubassement au sondage et on l'accepte à travers le principe d'échantillonnage et de représentativité. Mais en termes politiques, lorsqu'on fait une conférence de citoyens, par exemple, on demande à 15 ou 20 personnes tirées au sort de débattre ensemble d'une question souvent compliquée. Hein, la première conférence de citoyens, c'est une initiative qui vient du Danemark, utilisée en France, c'était en 1998, sur les OGM, sur les organismes génétiquement modifiés. Ce tirage au sort, on tire au sort ces citoyens et puis on leur demande un avis éclairé qui est censé pouvoir apporter quelque chose au décideur, à celui qui in fine va décider. Hein, c'est une sorte d'éclairage, d'une forme d'éclairage de quelque chose qui d'habitude n'est pas pris en compte dans le processus de décision.
Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte ?
Des principes de justice, par exemple, le sens commun de nos partis.
Pardon, je vous pose la question autrement. Dans quelle mesure est-ce que l'avis du citoyen lambda est plus pertinent que celui d'un expert sur la question pour éclairer la décision d'un politique à qui revient ultimement, on a bien compris, hein, la tâche de décider ?
Eh bien, c'est tout l'enjeu du problème. C'est-à-dire que la captation du choix de la décision, du processus d'éclairage de la décision par des acteurs qui, pour certains, sont élus, donc ont cette légitimité de politiser la décision, d'autres experts sont censés introduire une problématique, ce problème, c'est ce qui fait problème aujourd'hui en démocratie, y compris pour des problèmes extrêmement complexes qui impliquent des choix technologiques. C'est-à-dire que c'est toute la réflexion de Michel Calon et Pierre Lascoum sur agir dans un monde incertain. Dans un monde incertain où la science n'est plus en mesure d'anticiper sur ce que sont les risques, n'est plus en mesure de savoir quelle est la trajectoire à adopter pour trouver les solutions, l'un des enjeux, c'est d'explorer finalement les différentes solutions. Et dans cette exploration, soit les citoyens tirés au sort, soit les principaux concernés, pensez aux associations de malades, pensez à ceux qui sont impliqués par la décision, peut apporter quelque chose, peut enrichir finalement ce processus.
Mais alors, j'en reviens à la question que je vous posais tout à l'heure, Loïc Blondiaux, qu'est-ce qui distingue la démocratie participative de ce que quelqu'un comme Tocqueville, par exemple, dit de l'association ? Après tout, pour Tocqueville, le danger, c'est la dépolitisation, c'est l'individu qui, se repliant dans sa coquille sur lui-même, ne se soucie pas des lois qui transcendent sa petite personne, se contente de revendiquer ses droits, Tocqueville faisant la prophétie comme ça d'individus qui ne se soucient que d'eux-mêmes et donc d'une dépolitisation qui serait l'occasion pour un despotisme nouveau, un despotisme sournois, plus doux d'advenir. Le remède, l'un des remèdes que Tocqueville propose, c'est outre la liberté de la presse, le pluralisme politique, évidemment, la constitution d'associations ou de syndicats. Quelle différence entre la démocratie participative et ces associations, ces fédérations d'individus qui occupent l'espace laissé vacant entre les gouvernants et les gouvernés ?
Alors, l'enjeu de la démocratie participative telle que je la conçois, notamment dans ce livre, c'est d'introduire un troisième terme entre la démocratie institutionnelle, représentative, celle de l'élection, celle de la démocratie parlementaire, et la démocratie contestataire, ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie. L'enjeu pour moi de la démocratie participative, c'est d'institutionnaliser un lieu où ces logiques se confrontent. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire essayer d'institutionnaliser des formes d'interaction, c'est-à-dire de les rendre obligatoires en amont du processus de décision entre la démocratie institutionnelle et la démocratie associative, comme vous le dites. Le présupposé qui est là derrière, c'est que la démocratie associative telle qu'elle fonctionne, la démocratie sociale ou syndicale telle qu'elle fonctionne, ne fonctionne pas réellement d'une manière totalement efficace aujourd'hui dans nos démocraties.
Oui, mais je pourrais vous proposer, il y a un autre présupposé qui est que quand on est dans une logique contestataire, on n'a pas envie, forcément, on a plutôt envie de pouvoir contester. En donnant un relais, j'allais dire, presque dialogique à la contestation, en inscrivant la contestation dans la vie de la cité, en en faisant un élément de proposition, vous privez le contestataire du plaisir qui est le sien de la contestation même.
Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que là, il y a un risque, il y a un danger. Le risque de la canalisation, de la contestation, le risque de l'instrumentalisation de cette démocratie associative et de la faire basculer du côté de la démocratie institutionnelle. C'est pour ça que la démocratie participative n'a d'intérêt. Moi, je suis sociologue. Quand je l'observe, quand je regarde là où ça fonctionne, là où ça produit des effets, que quand elle est un lieu de tension entre ses légitimités, un lieu de tension entre ses logiques. La logique de celui qui interpelle, le politique, qui conteste, et la logique de celui qui est en charge de la décision. Et puis l'un des points, moi, qui m'importe le plus dans cet idéal de démocratie participative et qui mérite que l'on s'y intéresse, c'est la possibilité à travers cela de voir pris en charge dans le débat public, de voir représenter tout simplement tout un ensemble de groupes qui aujourd'hui sont défendus, mais pas forcément toujours très bien, sont entendus, mais pas forcément de manière complètement optimale par la démocratie représentative, mais aussi par la démocratie partisane et la démocratie associative. Je dis très souvent que la démocratie participative, en tant que projet politique, ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne permettait pas de rectifier, d'un certain point de vue, ces inégalités face à la représentation, face au débat public, face à la discussion politique. C'est l'un des enjeux. Et c'est vrai qu'au départ de la démocratie participative, il y a une critique à la fois de la démocratie représentative, mais une critique aussi
de la démocratie directe.
De la démocratie contestataire, la démocratie directe étant une autre modalité.
Mais est-ce que la démocratie participative, on a bien compris que la démocratie participative critiquait la démocratie représentative, ce qui est une façon aussi de lui rendre hommage, d'ailleurs, en tout cas, essayer de la nourrir et de la légitimer. Qu'en somme, la démocratie participative participative n'était pas une entreprise révolutionnaire. Ça, on l'a compris. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps dans la démocratie participative, justement à ce titre, implicitement, une critique du gouvernement du peuple par le peuple, en somme de l'unanimisme requis par une démocratie, cette fois-ci carrément directe, hein, Loïc Blondiot?
Alors, tel qu'on peut observer aujourd'hui la manière dont des procédures se mettent en place dans des contextes extrêmement différents, que ce soit le contexte latino-américain, le contexte anglo-saxon ou les pays d'Europe du Nord, on est très loin de ce risque. Hein, c'est-à-dire que le risque est plutôt un risque d'aphasie de la démocratie représentative, de délégitimation progressive. Elle est toujours légitime aujourd'hui.
Que de dictature du prolétariat.
Oui, que de dictature du prolétariat. Nous n'en sommes pas là. Et l'une des clés de cette situation, c'est de montrer que les groupes contestataires, les groupes les plus radicaux, se méfient de la démocratie participative, qui est une forme, finalement, d'institutionnalisation de la démocratie. Hein. Moi, le pari que je fais, c'est que l'institutionnalisation de ce lieu d'interaction est quelque chose qui permet de donner du sens au processus de représentation politique dans nos démocraties. Aujourd'hui, nous avons tendance à limiter le jeu de la représentation à un moment qui est le moment de l'élection. Ce moment est le seul moment où les citoyens, finalement, et les élus se rencontrent. Mais le processus de représentation, ça doit être un processus aussi de légitimation de la décision. Il y a des tas de problèmes qui n'ont pas été envisagés au moment de l'élection. Hein. Il y a des tas de malentendus autour de l'élection. On élit un candidat, mais on n'élit pas l'intégralité de ce programme. Et donc, il y a une remise en jeu nécessaire par le débat, par la consultation, par la concertation de cette légitimité dans l'intervalle entre les élections. C'est quand même pas demander énormément que de demander ça.
Alors, la meilleure preuve de ce que vous dites, hein, c'est que, d'ailleurs, on peut le dire amicalement à Finkielkraut, c'est qu'il rappelle, il cite Mendès France ou le général de Gaulle en expliquant que ce ne sont pas des hommes de proximité, deux exemples qu'il prend à l'appui d'une critique de la démocratie participative. Or, comme vous-même le rappelez dans votre livre, Loïc Blondiot, Pierre Mendès France avait pour projet de réaliser la démocratie de la participation et le général de Gaulle, d'une certaine façon, l'avait déjà fait avant lui.
Alors là, il y a une ambiguïté sur le mot de participation. Je pense que la participation telle que l'entendait le général de Gaulle n'a pas grand-chose à voir avec ce dont je vous parle maintenant. C'est plutôt la participation des salariés aux fruits de
Est-ce que ça n'est pas de la démocratie participative, ça ?
Alors non. Il y a un problème avec cette notion de démocratie participative.
Est-ce associer les salariés, comme c'était l'objet du général de Gaulle finalement, théorisé par Raymond Aron d'ailleurs, hein, associer les salariés aux décisions des entreprises, est-ce qu'on n'est pas là dans un exemple de démocratie participative ? Après tout, pourquoi faudrait-il réduire à la politique, à la sphère politique, ce qu'on appelle démocratie participative?
Alors il y a deux objets là. Premier objet, c'est un concept qui était déjà très accueillant, le concept de démocratie participative, très ambivalent, très flou. Et une partie de son succès, c'est qu'effectivement on y met des contenus extrêmement différents. Il faut bien essayer un petit peu de clarifier, de baliser le champ. Et tout intégrer derrière la démocratie participative finit par poser problème. Hein. Et l'un des objets finalement de mon livre, c'est justement d'essayer de clarifier tout cela, de cartographier cette question. L'autre enjeu, vous avez tout à fait raison, on peut s'interroger sur le fait qu'à force de s'obnubiler sur la participation du citoyen dans la cité, et notamment souvent à l'échelle locale, hein, c'est l'un des enjeux de la démocratie participative, c'est de faire participer à l'échelle locale, on oublie peut-être l'essentiel, c'est-à-dire que le destin des citoyens, aujourd'hui, il se joue dans l'entreprise beaucoup plus que dans la cité, d'un certain point de vue. Et ce qui est très frappant, mais là, c'est un constat, hein, ça n'est pas un souhait. Ce qui est très frappant, c'est la désertion du thème de la démocratie économique, de la démocratie dans l'entreprise. On a vu sous la forme de la démocratie des petits actionnaires réémerger cette question. Mais la question de la participation des travailleurs au gouvernement de l'entreprise est un thème qui est à peu près mort aujourd'hui, qui est à peu près tabou. Hein. Donc là, je suis d'accord avec vous. Dans ce phénomène émergent, ce thème a été complètement désinvesti.
Alors, il y a une autre question, évidemment, implicitement requise par la démocratie participative, par les conséquences et par ce qu'elle suppose, c'est la critique de l'expertise, la critique en tout cas du règne des experts. Je voudrais qu'on entende sur ce sujet Philippe de Villiers. Alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que comme on va l'entendre, la position de Philippe de Villiers emprunte manifestement à la démocratie participative, la critique peut-être poujadiste d'ailleurs des technocrates, ceux qu'il appelle les gnomes, et en même temps, Philippe de Villiers s'oppose évidemment de façon frontale, ça on pouvait s'y attendre, à Ségolène Royal. Philippe de Villiers, donc.
Face à Ségolène Royal, qui prône un retour au socialisme le plus archaïque, face à Nicolas Sarkozy, qui prône l'européisme, l'atlantisme, le mondialisme et le communautarisme, Face à la gauche dangereuse et à la droite frileuse, je suis le candidat du patriotisme, le candidat de ceux qui choisissent comme cadre politique pour agir le cadre national. Mon projet, c'est la France à 100%. Ce n'est pas le CAC 40, les technocrates de Bruxelles, les gnomes de Francfort ou de l'OMC. Ce sont les Français qui souffrent, qui voient ahuris autour d'eux l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide et les politiciens qui pérorent et qui promettent et qui trahissent et qui mentent et qui se trompent et qui nous trompent.
La démocratie, on a bien failli y croire, c'est mauvais de marcher contre le sens de l'histoire.
À coup de résignation, tous les moyens sont bons pour forcer la soumission.
La démocratie, on a bien failli y croire, c'est mauvais de marcher contre le sens de l'histoire.
À coup de lâcheté, à coup de résignation, tous les moyens sont bons pour forcer la soumission.
Au suffrage libéral, au suffrage démocrate, le pouvoir est aux mains des mêmes.
Cochise dans les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture, Philippe de Villiers également dans les nouveaux chemins de la connaissance et Loïc Blondiot qui est notre invité dans le cadre d'une semaine que les nouveaux chemins consacrent à la rénovation de la démocratie. C'est de démocratie participative que nous parlons aujourd'hui à l'occasion du livre de Loïc Blondiot, Le nouvel esprit de la démocratie, à l'occasion également du colloque organisé par la République des idées à Grenoble les 8, 9 et 10 mai prochains à la Maison de la Culture. Alors Loïc Blondiot, on a bien compris que Philippe de Villiers n'était pas le porte-parole, le héros de la démocratie participative. Néanmoins, est-ce que en prenant pour fond de commerce la critique des technocrates, la critique des gnomes de Bruxelles, la critique de ces petits gris qui ne se sont pas fait élire contre toute politique d'ailleurs menée dans un cadre national, bref, en enfourchant ce cheval de bataille, est-ce que Philippe de Villiers finalement ne reprend pas l'un des arguments possibles ou implicitement contenu dans la rhétorique de la démocratie participative?
Derrière cette critique de l'expertise, bon, je pense qu'effectivement, mis à part Philippe de Villiers et ce qui ressemble à un discours poujadiste, il y a un fait avéré. C'est qu'aujourd'hui, l'autorité de l'expert, elle est partout chahutée. Partout. Elle est chahutée devant toutes les scènes démocratiques qui se mettent en place. Moi, j'ai assisté à des débats publics sur des projets d'infrastructures, des choses qui ont une incidence réelle sur la vie des citoyens, des experts patentés, des gens qui, autrefois, auraient pu se faire entendre sans être contestés, se voir remis en cause pour leur partialité, se voir remis en cause aussi pour le fait qu'ils ne voyaient pas des choses que d'autres étaient mieux à même qu'eux de voir. L'un des problèmes fondamentaux des experts, c'est qu'ils intègrent dans leur choix, ils intègrent dans leur calcul des paramètres qui ne servent pas complètement à fonder la décision. Un expert, par exemple, se fonde sur des considérations scientifiques, des considérations techniques, il se fonde sur des considérations économiques lorsqu'il s'agit de penser, d'élaborer un projet. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un rapport au paysage? Qu'est-ce qu'on fait d'un sentiment de reconnaissance? Qu'est-ce qu'on fait de paramètres politiques qui ne peuvent pas être mis en équation? Il y a un vrai problème. Et l'un des enjeux de la démocratie participative, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'expert doit démontrer qu'il a raison. Et cette épreuve de la démonstration, elle doit se faire aussi, pas seulement devant des cénacles académiques, mais aussi lorsqu'elle entre dans la sphère politique, elle doit se démontrer aussi à l'épreuve du débat public, à l'épreuve de la contestation.
Alors imaginons, Loïc Blondiot, qu'on organise un débat participatif, un exemple de démocratie participative, sur la démocratie participative elle-même. Et qu'à ce titre, vous soyez, vous, qui avez beaucoup travaillé sur la question, ça on peut l'entendre, vous soyez, vous, invité à débattre avec des gens qui n'y connaissent rien, mais qui, puisqu'on est en pleine démocratie participative, l'opinion est considérée avec le même intérêt que la vôtre. Auriez-vous le sentiment qu'un tel débat fait avancer la question ?
C'est relativement violent. c'est relativement... Il y a une vraie mise à l'épreuve, il y a un vrai chahut, mais je défendrais, d'un certain point de vue, le fruit de mes observations. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais être très clair, c'est-à-dire que travailler depuis quelques années sur cette question de la démocratie participative exige que l'on y trouve un intérêt. Il y a une manière de caricaturer cette notion, de caricaturer cet idéal, qui est effectivement de la rabattre sur des formes de populisme ou de démagogie qui ôte tout intérêt à réfléchir à ces questions. Mais c'est y travailler d'une manière
Est-ce que le populisme ou la démagogie n'est pas un des effets possibles de la démocratie participative?
C'est un des effets possibles, mais ça ne se réduit pas à ça.
Mais comment le conjurer?
Par
quel filtre?
En s'assurant, finalement, que les conditions du débat soit des conditions de loyauté, d'équité, de transparence, de publicité. Si l'on croit un peu, finalement, aux vertus de la discussion publique, au fait que, finalement, les arguments se confrontant, certains finiront peut-être par l'emporter, si on croit à ce qui fait le fondement, finalement, ce qui fait le fondement de la démocratie, je ne vois pas comment on peut avoir peur de la démocratie participative, d'un certain point de vue. Il y a là, me semble-t-il, la possibilité, et j'y reviens, mais c'est une possibilité qui n'est pas forcément aboutie, ça c'est un point très important, c'est qu'il y a des tas d'expériences qui produisent de la frustration, il y a des tas d'expériences qui dégénèrent. Mais si elles dégénèrent, c'est surtout par une tentative d'instrumentalisation, de verrouillage, par les élus qui mettent en place de la démocratie participative, beaucoup plus souvent que du fait de la démocratie participative elle-même et de sa dynamique propre. Il n'y a pas de fatalité de ce que vous appellerez très certainement la tyrannie de la majorité ou l'oppression de minorités actives sur les majorités silencieuses. Il y a ce risque, évidemment, dans la démocratie participative, mais il y a aussi les moyens, et un certain nombre d'expériences le démontrent, de conjurer ce risque.
Alors, plusieurs questions. Loïc Blondiaux, Tocqueville nous accompagne toute cette semaine. Nous ne parlons pas de lui explicitement dans cette semaine, mais après tout, le sociologue que vous êtes peut se retrouver dans le sociologue qu'il était. Tocqueville dit ceci. Dans la démocratie en Amérique, dans les pays libres, où chacun est plus ou moins appelé à donner son opinion sur les affaires de l'État, dans les républiques démocratiques, où la vie publique est incessamment mêlée à la vie privée, où le souverain est abordable de toutes parts, et où il ne s'agit que d'élever la voix pour arriver jusqu'à son oreille, on rencontre beaucoup plus de gens qui cherchent à spéculer sur ses faiblesses et à vivre aux dépens de ses passions que dans les monarchies absolues. Ce n'est pas que les hommes y soient naturellement pires qu'ailleurs, mais la tentation y est plus forte et s'offre à plus de monde en même temps. Il en résulte un abaissement bien plus général dans les âmes.
Oui, ce dont parle Tocqueville, c'est l'un des éléments qui lui pose problème à travers la démocratie, c'est le problème de l'abaissement de l'autorité et de l'émergence d'une autorité supérieure qui serait l'autorité de l'opinion. Mais le fait de contester l'autorité, est-ce que c'est un mal en soi en démocratie? Je sais que vous allez inviter Claude Lefort cette semaine, pour clôturer cette semaine, mais c'est bien lui qui a dit que la démocratie, c'était l'institutionnalisation du conflit. Et d'un certain point de vue...
Ce qui est important dans cette phrase, c'est l'institutionnalisation.
Absolument. Mais je vous ai dit également que pour moi aussi, c'était ça l'enjeu. C'était la question de l'institutionnalisation. Alors, parmi les possibles qui permettent d'éviter les dérives de la démocratie participative, il y a la possibilité de ce que j'appelle la mise en place de pouvoirs neutres ou de pouvoirs tiers, de tiers garants, qui soient des acteurs dans la société, des agents, qui aient pour mission d'organiser le débat public, de faire en sorte, ce qui est au fondement de la démocratie participative, que tous ceux qui sont impliqués par une décision puissent avoir eu la possibilité de se faire entendre sur cette décision elle-même. Et ces pouvoirs neutres me semblent la manière, d'un certain point de vue, de sortir des risques que vous envisagez.
Dans les milieux dits artistiques, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintant de faux amours, on rencontre des brassées de démocrates militants qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de 12 à avoir compris le dernier Godard, et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux Belmonderies boulevardières. Parce que ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini. C'est aussi l'obligation, pour ceux qui n'aiment pas ça, de subir à longueur d'antenne le football et les embrassades poilues de ces cro-magnons décérébrés qu'on a vus s'éclater de rire sur le charnier de leurs supporters. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussantes reconverties en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Reiser ou les batailleurs de chez Polak ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence, est reporté à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de figue éclatée et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. Cela dit, en cherchant bien, on finit par trouver au régime démocratique quelques avantages sur les seuls autres régimes qui lui font victorieusement concurrence dans le monde actuellement, ceux si semblables de la schlag en bottes noires ou du goulag rouge étoilé. D'abord, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de vous agacer tous les soirs entre les oreilles, je fermerai ma gueule en attendant la soupe dans ma cellule aseptisée. Et puis aussi, dans l'un comme dans l'autre, chez les drapeaux rouges comme chez les chemises noires, les chefs eux-mêmes ont rarement le droit de sortir tout seuls le soir pour aller au cinéma du coin bras dessus, avec la femme qu'ils aiment. Les chefs des drapeaux rouges et les chefs des chemises noires ne vont qu'au pas cinglant de leurs bottes guerrières, le torse pris dans un corset de fer à l'épreuve de l'amour et des balles. Ils vont, tragiques et le flingue sur le cœur, ils vont, métalliques et la peur au ventre, vers les palais blindés où s'ordonnent leurs lois de glace. Ils marchent droit sous leurs casquettes, leurs yeux durs sous verre fumé, cernés de 20 gorilles par choc qui surveillent les toits pour repérer la mort. Mais la mort n'est pas pour les chefs des drapeaux rouges ni pour les chefs des chemises noires. La mort n'est pas aux fenêtres des rideaux de fer. Elle a trop peur. La mort est sur Stockholm. Elle signe d'un trait rouge sur la neige blanche son aveu d'impuissance à tuer la liberté des hommes qui vont au cinéma tout seuls, bras dessous, avec la femme qu'ils aiment jusqu'à ce que mort s'en suive.
Loïc Blondieu est notre invité aujourd'hui, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, pour parler de démocratie participative dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins consacrent à la rénovation de la démocratie. Loïc Blondieu, on a entendu Des Proges, réaction contrastée d'ailleurs à la diffusion de cet extrait de Des Proges, hein. Beaucoup de rires en régie, moins chez vous. J'ai senti qu'il vous agaçait et que ce qu'il disait de la démocratie ou cette façon qu'il avait de la réduire à Belmondo et au top 50 ne vous convenait pas.
Non, elle ne me convient pas. On n'a pas convoqué, hein, à travers des extraits sonores, que des adeptes, hein, de cette idée de participation. Ce que je retiens de ce que dit Des Proges, c'est qu'effectivement, en démocratie, il y a aussi la liberté de ne pas s'intéresser à la politique. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité que l'on a de ne pas participer. Cette possibilité, elle doit toujours rester ouverte. Mais multiplier les possibilités pour les citoyens, finalement, de s'intéresser à la chose publique, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme un objectif majeur en démocratie. L'autre élément aussi, c'est que lorsque Des Proges parlent de Belmondo et de Fellini, ils parlent d'un domaine particulier qui est le domaine de la culture. On n'est pas dans le domaine. C'est-à-dire que là, on mélange un petit peu les choses et les formes d'autorité. On peut considérer qu'il y a des formes d'autorité différentes, que le monde artistique, d'un certain point de vue, peut sécréter des formes de hiérarchie, des formes, une diversité de goûts culturels. Mais en politique, il faut croire quand même à minima que chacun est capable de porter un jugement sur les questions politiques, un jugement qui est fondé et est capable de l'exprimer. C'est ça l'axiome de la démocratie.
On est d'accord, mais ça veut dire que vous réduisez le champ d'application de la démocratie participative, pourquoi pas, hein, à la stricte sphère du politique. On a vu tout à l'heure que la question de la démocratie participative en entreprise était une autre question pour vous. Idem pour la culture. En somme, il n'y a pas d'idée, par exemple, de culture citoyenne, comme on le dit, ou bien d'entreprise citoyenne. Tout ça est une espèce de jargon finalement qui ne veut rien dire. La démocratie participative s'en tient à la sphère du politique uniquement.
J'essaie simplement de vous dire que j'essaie de clarifier ça, ce qu'on peut entendre par démocratie participative, à la fois comme état d'un certain nombre d'initiatives qui se mettent en place un peu partout dans le monde. Et je rappelle que la France est très en retard. Et si finalement on
Malgré Ségolène Royal ?
Malgré Ségolène Royal, et peut-être aussi à cause de Ségolène Royal. Elle a contribué d'un certain point de vue à politiser ce thème. Cette thématique, qui est une thématique mais politisée au sens de la politique politicienne, a ouvert cette possibilité d'un certain point de vue, de diluer cet idéal de démocratie participative en même temps qu'elle le mettait, et c'était peut-être une bonne chose, sur l'agenda politique. Mais la démocratie participative, c'est donc un état, hein, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui mérite d'être pris un peu plus sérieusement qu'on ne le prend aujourd'hui en France. Hein. Bon, ça c'est une première chose, et c'est aussi une sorte de programme de réforme politique. Hein, c'est-à-dire cette possibilité de penser l'approfondissement de la démocratie sans maintenir le statu quo, Hein, je ne suis pas sûr que nous soyons d'accord tous pour penser que nos démocraties représentatives fonctionnent d'une manière idéale et sans vouloir la révolution. C'est-à-dire que cette forme de réformisme politique, elle me semble très importante à essayer de creuser. Alors, on est au niveau de l'exploration, on est dans des expériences qui sont extrêmement fragiles, qui ont des effets pervers pour certaines d'entre elles. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'exemples de démocratie participative qui produisent des effets contre-performants par rapport aux idéaux mêmes que l'on met en œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'être béat devant ces réalités, mais il s'agit simplement de se donner les moyens d'imaginer un autre fonctionnement démocratique que celui qui est le nôtre aujourd'hui, dans lequel nous avons des professionnels hein, qui ont monopolisé la définition de l'intérêt général et où le citoyen ordinaire n'a d'occasion de participer à la chose politique légitimement qu'au moment de l'élection.
Mais alors, est-ce que si Ségolène Royal, dont vous parlez, a contribué donc à la fois à mettre la démocratie participative sur le devant de la scène et en même temps peut-être à en donner une interprétation qui n'est pas la bonne ou peut-être à l'étendre trop et donc à l'étreindre mal, est-ce que c'est... Alors, on a bien compris, parce que éventuellement il y a une dilution de la démocratie participative dans une sorte de fraternité béate où il s'agirait de s'embrasser Folleville. Est-ce que ça n'est pas aussi du fait que, du témoignage même de ceux qui ont fait sa campagne parfois, les décisions qui étaient soi-disant prises en vertu de la démocratie participative étaient en réalité prises en amont et ensuite ratifiées ou non par l'assemblée locale convoquée à tel instant. En somme, est-ce que la démocratie participative n'était pas un outil pour donner aux électeurs, ou aux socialistes en l'occurrence, le sentiment qu'ils étaient à l'origine de décisions qui, quand elles correspondaient aux décisions qui étaient celles de l'équipe de campagne, étaient effectivement validées, mais certainement pas dans l'autre cas.
Alors, c'est effectivement très compliqué de mettre en place le type de dispositif qu'elle a mis en place, c'est-à-dire de consultation des citoyens à un moment très tardif de la campagne. Le problème de la campagne de Ségolène Royal, c'est essentiellement un problème de timing. C'est-à-dire que c'est arrivé à un moment où, normalement, la candidate aurait dû avoir un programme. L'autre problème, c'est que cette légitimité-là qu'elle mettait en scène venait heurter la légitimité partisane. Et les acteurs du parti socialiste, en l'occurrence, se sont sentis très fortement déstabilisés par cette initiative. Donc, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir ce que l'on veut faire, il faut savoir ce que l'on cherche. Je ne suis pas sûr que dans le cadre d'une campagne électorale et telle qu'elle a utilisé ces forums participatifs, l'outil était ajusté à la demande. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Bon, chez Ségolène Royal, qu'on a effectivement beaucoup brocardé, à la fois pour les jurys de citoyens et pour ces forums Désir d'avenir, il y a quand même au niveau local une utilisation de quelque chose de beaucoup plus modeste qui n'intéresse absolument personne sur la place de Paris, qui sont les budgets participatifs des lycées, dans lesquels les lycéens...
Où l'on retrouve l'initiative du Parti des Travailleurs dont vous parliez
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, hein, mais qui est menée d'une manière relativement rigoureuse et qui produit sur une échelle limitée des choses qui sont pas du tout indifférentes. Hein. Donc il y a de ce point de vue-là un bilan contrasté.
Est-ce que les vertus de la démocratie participative ne sont pas essentiellement des vertus pédagogiques? Est-ce que ça n'est pas en somme, plus encore que la contestation, dont on fait bien souvent une excellente porte d'entrée en politique, est-ce que la démocratie participative n'est pas une des modalités les plus fécondes d'entrée en politique, tout simplement ?
C'est le rôle que jouent un certain nombre de dispositifs qui sont des tremplins hein, pour le parti politique, des écoles de la démocratie. D'un certain point de vue, c'est une des modalités, c'est un des objectifs que l'on peut se fixer en mettant en place ces procédures, mais ça ne peut pas être le seul. Les citoyens n'ont pas envie, si on adopte une posture pédagogique où il s'agirait de leur expliquer ce qu'est la politique, d'expliquer la complexité et ce que vous disiez tout à l'heure qui arrive malheureusement bien trop souvent en France, d'avaliser des décisions qui ont déjà été prises, si ça n'est que ça, il faudra s'attendre à un retour de bâton très rapidement. C'est-à-dire que à force de caricature, à force de simulacre de participation, les citoyens renverront aux élus, parce que ce sont les élus qui mettent en place de la participation. Il n'y a pas de manifestation dans la rue pour la démocratie participative. Ségolène Royal a raison sur le constat. Les citoyens demandent à être entendus lorsqu'ils ont quelque chose à dire. Ils ne demandent pas à prendre la place des élus. Mais lorsque finalement non seulement on fait semblant de leur donner la parole, mais qu'on ne les écoute pas du tout et qu'on sait pertinemment bien que cela n'aura aucune influence, même indirecte, sur la décision, il est clair que la démocratie participative produira beaucoup plus de contestation que d'institutionnalisation du conflit.
voudrais m'acheter une démocratie. Je voudrais m'acheter le meilleur d'une vie. Je voudrais m'acheter de la liberté. Et puis un peu de fraternité.
Un grand merci Loïc Blondiaux, c'était passionnant de vous entendre. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Lille, vous êtes chercheur au CERAPS, vous êtes également l'auteur de nombreux articles et ouvrages, mais je voudrais citer donc celui à l'occasion duquel nous vous avons invité cette semaine au Nouveau Chemin, le nouvel esprit de la démocratie, actualité de la démocratie participative, au Seuil, dans la collection de la République des idées.
Des petits bonheurs.
La République des idées, justement, toujours elle, organise les 8, 9 et 10 mai prochains la Maison de la Culture de Grenoble, MC2, un forum sur le thème « Réinventer la démocratie » qui réunit des chercheurs, des journalistes, des intellectuels, des responsables associatifs et des hommes politiques qui viendront débattre. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous en direct de Grenoble à 17h vendredi où nous accueillerons Pierre-Rosan Vallon et Claude Lefort.
On n'a pas... ce genre d'artiste.
À la technique aujourd'hui, Fabien Eliès, à la réalisation, François Connac, assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Igor Kortelitsa. France Culture, il est 17h50, tout de suite le citoyen Albert Jacquard.